Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Nous dansons entre deux martyrs et pour le lilas entre eux, nous dressons un minaret ou un palmier. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Au ver à soie, nous dérobons le fil pour édifier un ciel qui nous appartienne et enclore cette migration. Et nous ouvrons la porte du jardin pour que le jasmin sorte dans les rues comme une belle journée. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Là où nous élisons demeure, nous cultivons les plantes vivaces et récoltons les morts. Dans la flûte, nous soufflons la couleur du plus lointain. Sur le sable du défilé, nous dessinons les hennissements. Et nous écrivons nos noms, pierre par pierre. Toi, l'éclair éclaircit pour nous la nuit. Éclaircit donc un peu. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bienvenue sur Allegre FM 93.1. C'est désormais une tradition lorsque nous évoquons, nous parlons de ce qui se joue à Gaza, de la tragédie qui se joue à Gaza. Vous le savez, nous ouvrons l'antenne par un poème de Mahmoud Darwish, immense poète palestinien, un poème dit par Didier Sandre. Alors que le gouvernement israélien a allumé un contre-feu en bombardant l'Iran, il est plus que jamais urgent, nécessaire de garder nos yeux sur ce qui se joue dans ce qu'il est convenu d'appeler la bande de Gaza. C'est ce que nous allons faire ce matin en compagnie de mon invité Jean-Pierre Filiu, qui publie aux éditions Les Arènes un historien à Gaza, récit d'un séjour d'un mois qu'il a pu faire en décembre 2024 dans cet endroit où se joue un massacre à huis clos. Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris, où il propose un cours d'introduction à la question palestinienne. Depuis 1980, il séjourne fréquemment à Gaza ainsi qu'en Israël. Il parle l'arabe, nous a livré plusieurs livres sur cette partie du monde et nous propose une chronique « Ainsi Proche-Orient » sur le site du Monde. En décembre 2024, je le disais, il a passé un mois à Gaza. Un mois qui lui ont permis de nous livrer un témoignage d'une force sans précédent, dont tous les droits seront versés à Médecins sans frontières. Jean-Pierre Filiu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro d'Allegre FM ce matin pour parler de ce qui ressemble à un voyage au bout de l'enfer. Un voyage au cœur des ténèbres. Ce livre, il fait suite à de nombreux articles publiés dans Le Monde, notamment au lendemain du 7 octobre. Avec vous, nous allons donc évoquer ce qui se trame à Gaza sur le plan humanitaire. Mais tout d'abord, j'aimerais mettre à profit votre connaissance de l'histoire et de la géographie de ce lieu pour permettre aux auditeurs de dépasser la vision que nous avons d'un espace aux bancs de l'humanité désigné par une bande de territoire.
Effectivement, ce terme de bande est déjà en soi réducteur, voire humiliant pour les plus de 2 millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui y résident. Il faut savoir que l'oasis de Gaza, le carrefour convoité, le caravansérail que tous les caravaniers souhaitaient fréquenter pendant des siècles, voire des millénaires. Cette oasis ouverte au monde, cette oasis carrefour, n'est devenue une bande retranchée du monde que relativement récemment, à partir de 1948 et de ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe, qui a vu plus de la moitié de la population arabe de Palestine contrainte de fuir sa terre. Et un quart de la population arabe de la Palestine, donc à la fondation de l'État d'Israël, s'est retrouvé dans cette bande, c'est-à-dire ceux qui restaient après le cessez-le-feu entre Israël et l'Égypte. Et donc 1% du territoire de la Palestine pour un quart de la population arabe de Palestine. Il était évident que cette enclave allait devenir un foyer du nationalisme palestinien, d'autant que plus des deux tiers de sa population étaient constitués de réfugiés venus de toute la Palestine. Quand j'écrivais mon histoire de Gaza, qui est déjà parue en 2012, même s'il a été mise à jour depuis et encore récemment, on me racontait à Gaza que c'était un peu l'arche de Noé, Safinet Noé, qui avait accueilli les Palestiniens de l'ensemble de la patrie perdue. Donc c'est là que le Fatah, le mouvement, vraiment la matrice du nationalisme palestinien a été établie. C'est là que la première intifada s'est déclenchée en 1987 et a conduit au processus de paix malheureusement avorté avec Israël. Mais c'est là aussi que le Hamas a été fondé la même année, en 1987, à partir des frères musulmans qui avaient collaboré avec l'occupant israélien contre le nationalisme du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Donc c'est une terre fondatrice à bien des égards. Et cela fait longtemps que je martèle ma conviction nourrie d'une réflexion historique, que l'alternative est simple entre les deux peuples d'Israël et de Palestine. Soit on a une solution à deux États, et Gaza ne peut être que partie de cet État de Palestine, et Gaza doit donc être réintégré dans cet espace partagé, même s'il est divisé entre les deux nationalismes, soit Israël mènera guerre après guerre pour ne pas régler la question de Palestine, pour l'effacer, pour la liquider. Et on en est, depuis octobre 2023, à la 15e guerre menée par Israël contre Gaza. C'est une véritable obsession, Gaza, pour Israël. Et il n'y a pas de solution militaire possible. C'est la seule leçon tragique, mais catégorique, du carnage en cours depuis près de 21 mois.
Qu'est-ce qui pouvait annoncer, selon vous, Jean-Pierre Filliu, le 7 octobre, le massacre du 7 octobre, qui est souvent présenté chez certains politiques, dans les médias, comme un acte fondateur, comme si, ou en fait, l'année zéro de ce conflit?
Donc, comme historien, je ne peux m'inscrire intellectuellement qu'en faux contre ce type de perspective qui relève vraiment du présentisme, du court-termisme. Donc on est dans cette illusion que tout aurait commencé un jour, il y a deux ans, alors que je l'écris au lendemain des massacres terroristes perpétrés par le Hamas et ses alliés. Toutes les émotions sont légitimes, l'indignation, la colère, la peine, la douleur, toutes sauf la surprise. Donc, ça faisait déjà plus d'une décennie que dans mon histoire de Gaza, que dans tous les supports où je pouvais intervenir, je répétais que la situation était intenable. Et on me répondait, des gens qui se piquaient de soi-disant réalisme, que c'était un statu quo. Alors, je disais, c'est ni un statu ni un quo, c'est rien du tout. C'est une bombe à retardement qui va inévitablement exploser un jour à la face du monde. Et dès 2014, j'affirmais clairement, donc c'était une des 15 guerres d'Israël contre Gaza qui se déroulaient alors, qu'il était moralement intenable, mais stratégiquement débile, de prétendre gager la sécurité d'Israël sur l'insécurité absolue de la population de Gaza. Ça ne pouvait que générer des monstres, et ces monstres, ils ont été lâchés à l'aube du 7 octobre 2023.
Et c'est essentiellement la situation de blocus infligée à Gaza depuis des années, avec des restrictions déjà alimentaires que vous rappelez dans votre livre, Jean-Pierre Filiu, puisque les rations alimentaires avaient été strictement calculées. Et le problème aussi du détournement de l'eau au profit des colonies, dont vous parlez également dans ce livre.
Donc il y a eu différentes phases. Hein. Gaza a été occupé déjà trois fois par Israël. La première fois, ça n'est que quelques mois, en 1956. On l'oublie souvent, même s'il y a une remarquable étude graphique, j'ose pas dire bande dessinée, tellement le livre est extraordinaire, de Joe Sacco, hein, Gaza 1956, sur deux des massacres qui ont été alors perpétrés par l'armée israélienne, avec plus de 200 morts dans un cas, plus de 100 morts dans l'autre, tous civils. Et donc, occupation très courte, mais très violente, avec une proportion de la population de Gaza tuée. Triste record qui ne sera dépassé qu'après le octobre 2023. Donc, première occupation qui prend fin parce qu'à l'époque, quand les États-Unis tapaient sur la table, ben Israël obéissait. Et donc, Israël a évacué pendant que ses alliés de cette guerre contre l'Égypte du colonel Abdel Nasser étaient eux aussi humiliés, hein, la Grande-Bretagne et la France engagées dans une politique de la canonnière de type colonial. Et puis après, il y a eu la longue occupation de 1967 à 2005, où là, Gaza est complètement quadrillé par l'armée israélienne. Il y a une insurrection de basse intensité qui dure pendant 4 ans et qui est écrasée par le général Ariel Sharon, commandant de la région sud, à la faveur déjà d'une reconfiguration au bulldozer, au tank, de l'espace de Gaza. À l'époque, c'était 10% de la population qui avait été déplacée. Aujourd'hui, c'est pratiquement 100%. Mais c'est alors que se met en place un maillage par ce qu'on appelle des blocs qui va être utilisé aujourd'hui, les 600 blocs, dans la gestion de l'espace par l'armée israélienne. Et le même Ariel Sharon va, en 2005, devenu Premier ministre, ayant vaincu les Palestiniens dans la deuxième intifada, qui, la différence de la première, était non seulement militarisé, mais recourait aux attentats suicides qui ont profondément traumatisé la société israélienne, eh bien, Ariel Sharon va décider en 2005 d'évacuer à la fois les militaires et les colons. Parce qu'il considère qu'on peut beaucoup mieux gérer la bande de Gaza de l'extérieur, à distance. Donc ce sera fait, c'est pas du tout un acte de paix, c'est au contraire pour casser la perspective d'un État palestinien en intensifiant la colonisation en Cisjordanie. Et il y a déjà le schisme entre le Fatah et le Hamas, le Fatah via l'autorité palestinienne engagée dans la paix avec Israël, alors que le Hamas refuse toute paix. Mais en fait, c'est un pari de faction sur l'échec du processus de paix pour récupérer l'amertume et le refus de l'autorité palestinienne dans la population. Donc de 2005 à 2007, on a une guerre civile interpalestinienne à Gaza, hein, qui est de plus en plus ouverte, et qui s'achève au profit du Hamas, qui expulse l'autorité palestinienne en juin 2007. Et là se met en place le cadre de la tragédie actuelle. C'est-à-dire qu'on a un blocus, essentiellement israélien, mais avec une collaboration de l'Égypte à la frontière sud, dans la ville de Rafah, aujourd'hui totalement détruite. Et donc un contrôle des frontières, mais aussi de l'espace aérien, de l'espace maritime, hein, par ce que la Cour internationale de justice considère être encore la puissance occupante. Hein, donc Israël dit « Ah, on s'est retiré de Gaza, ce qui est arrivé après ne nous concerne pas ». Pas du tout. Puissance occupante, et vous l'avez rappelé, il y a même une tentation très forte de fixer pratiquement à la calorie près ceux qui rentraient via les camions autorisés par Israël dans l'assiette des femmes, des hommes et des enfants de Gaza avec des rations caloriques différentes suivant les uns et les autres. Donc on est quand même dans quelque chose qui aurait, je crois, fasciné Michel Foucault, hein, comme contrôle total, hein, panoptique. Donc Évidemment, dans ce cadre-là, le quadrillage de la bande de Gaza par le Hamas est facilité par le blocus, vu que le blocus, en fermant l'horizon, ferme aussi l'horizon politique à Gaza, et fait que Gaza se retrouve être dans un monde arabe qui est complètement saturé de police politique, l'espace arabe le plus saturé de tous. Je ne parle même pas des Israéliens, je parle de Hamas, de sa police politique, des brigades Qassam, sa branche armée, qui, quand elles ne se battent pas contre Israël, ce qui est quand même le cas la majorité du temps avant 2023, eh bien, elles persécutent leurs compatriotes, hein, et surtout les femmes de Gaza. Donc on est dans cette situation que les habitants de Gaza appellent le cauchemar dans le cauchemar. Le cauchemar de la domination islamiste dans le cauchemar de l'occupation israélienne.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Quel a été, on va ensuite venir à votre témoignage récent, hein, Jean-Pierre Philippe, mais une dernière question. Quelle a été l'attitude des gouvernants israéliens successifs, et en particulier de Netanyahou, qui a une longévité dans l'exercice du pouvoir assez folle, vis-à-vis du Hamas?
Donc Netanyahou, je lui ai consacré la seule biographie en langue française, hein, Main basse sur Israël, à la découverte, c'est récemment réédité, actualisé. Netanyahou est, pour l'historien que je suis, un personnage fascinant, parce qu'il parle beaucoup, donc il y a beaucoup de sources, et vous l'avez dit, sa longévité, mais il ne faut pas le créditer d'une vision stratégique. C'est fondamentalement un opportuniste, hein, qui... justement, est prêt à tout pour rester un jour, une semaine, un mois de plus au pouvoir, et puis à la fin, ben, ça fait 17 ans. Donc, par rapport au Hamas, il a fait une chose et son contraire. Et pendant longtemps, il a ménagé le Hamas, parce que le Hamas lui paraissait le meilleur allié objectif de son gouvernement dans le refus d'un État palestinien, parce que le divorce entre l'autorité palestinienne et le Hamas, on le voit, hein, encore aujourd'hui, enfin chaque jour, hein, interdit au nationalisme palestinien une mobilisation cohérente. Hein, ce sont des mobilisations factionnelles. Donc il a joué sur ça, et il a pris une décision qu'évidemment, il est très heureux que tout le monde ait oublié, mais l'historien, lui, n'oublie pas, il documente. C'est qu'en 2011, il a autorisé la libération contre un otage israélien, franco-israélien, Gilad Shalit, détenu par le Hamas depuis 2006, la libération de plus d'un millier de prisonniers palestiniens, dont Yahya Sinwar, qui va devenir le chef politique et militaire du Hamas, ce qui est unique, hein, dans l'histoire du mouvement. Et Sinwar a été détenu 22 ans dans les prisons israéliennes, il parle parfaitement hébreu, et il s'est beaucoup intéressé aux services de renseignement, de sécurité. Et il est convaincu que on peut les défaire à condition de les connaître de l'intérieur. Et pourquoi pense-t-il qu'on peut les défaire? Il pense qu'on peut les défaire parce que les Israéliens sont aveuglés par leur supériorité technologique et militaire et ne peuvent pas imaginer qu'un adversaire aussi peu substantiel que le Hamas en termes de force de frappe soit capable de leur tenir tête. Il va jouer sur ça et il va très vite comprendre que Netanyahou est prêt à rentrer inconsciemment, j'insiste, hein, inconsciemment. Hein, il n'y a eu aucune manipulation, il y a fondamentalement, comme souvent dans l'histoire, de l'aveuglement, de la bêtise et de la lâcheté. Hein, aveuglement idéologique, bêtise court-termiste et lâcheté opportuniste. Donc, ces dernières années, donc avant le 7 octobre 2023, Netanyahou avait été convaincu par Sinwar, qu'il avait soigneusement enfumé dans tous les sens du mot, que le Hamas était assagi. Et que le Hamas, au fond, c'était un peu l'équivalent à Gaza de l'autorité palestinienne, si on leur donnait des permis de travail à la population, si on laissait telle ou telle facilité rentrer, eh bien le Hamas ne bougerait plus et serait en fait le garde-chiourme de la prison à ciel ouvert de Gaza. Et là, Netanyahou a été totalement pris de court par le 7 octobre. C'est pourquoi... il craint beaucoup les différentes procédures judiciaires qui le visent en Israël contre pour fraude, abus de confiance et corruption. D'ailleurs, Donald Trump vient de voler à son secours en disant que c'était pas une justice en Israël si on continuait à pourchasser son grand ami Netanyahou. Mais ce qu'il craint le plus, c'est évidemment la commission d'enquête israélienne sur le 7 octobre 2023. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'après, on va dire pudiquement, une déconvenue militaire, dans ce cas ça a été vraiment un effondrement systémique, il n'y a pas une commission d'enquête très rapidement. Ça avait été le cas après la guerre d'octobre 1973, qu'on désigne guerre du Kippour en Israël, guerre du Ramadan dans le monde arabe. C'était le cas après la guerre de 33 jours en 2006 entre Israël et le Hezbollah. Là, ça fait maintenant 21 mois que Netanyahou est arrivé à repousser cette commission d'enquête, et on peut lui faire confiance pour avoir veillé à la destruction des documents les plus compromettants, hein, qui mettent en cause son aveuglement, sa lâcheté et donc sa responsabilité très lourde dans ce jour le plus noir de l'histoire d'Israël.
Il est 9h21 sur Aligre FM 93.1. Si vous nous rejoignez, Jean-Pierre Filliou est à notre micro pour un ouvrage publié aux éditions Les Arènes, un historien à Gaza, dont tous les droits seront reversés à Médecins Sans Frontières. Jean-Pierre Filliou, on arrive au cœur de ce récit que je comparais en introduction à un voyage au cœur des ténèbres. Il faut rappeler aux auditeurs et aux auditrices qui l'auraient oublié que la bande de Gaza est fermée à toute presse étrangère depuis le 7 octobre. Et vous avez, en décembre 2024, réussi à vous y rendre en intégrant l'équipe de Médecins Sans Frontières. Votre récit a la force des récits de voyage et nous immerge vraiment dans une atmosphère de tension dramatique totale qui débouche sur la découverte de paysages apocalyptiques. Pouvez-vous nous raconter comment on entre dans la bande de Gaza au poste de Kerem Shalom?
Donc, je me rends régulièrement dans la bande, oui, de Gaza, y compris sous le blocus. Et donc, avant le 7 octobre, j'ai toujours choisi de pénétrer dans Gaza avec l'aval des autorités israéliennes. J'aurais pu passer par l'Égypte, et je ne le souhaitais pas, je voulais qu'elle soit comptable, responsable de mon entrée, de mon séjour et évidemment de ma sortie. Donc cette fois-ci, la coordination, vu que c'est ainsi qu'on doit procéder, on doit être coordonné, c'est-à-dire concrètement validé par les Israéliens. Ça s'est passé par Médecins Sans Frontières, hein, qui m'a fait confiance, et pour qui j'ai travaillé sur place, hein, en termes d'accompagnement, de contexte, d'analyse, de prospective. Donc, Médecins Sans Frontières, via l'ONU, demande une coordination me concernant à telle date. Et à cette date-là, on ne peut plus rentrer directement de Gaza depuis Israël. On doit partir de Jordanie. Et il y a la fiction d'un corridor humanitaire qui traverse Israël du Jourdain jusqu'à la bande de Gaza. En fait, on est dans un autobus qui est escorté par la police militaire israélienne. Et là, sur place, au vignoble de la paix, hein, Kerem Shalom, en hébreu, le poste était fermé. C'est le seul point d'entrée, c'est dans l'extrémité sud-est de la bande de Gaza, donc à la frontière égyptienne. C'était impossible de rentrer normalement. Donc, au bout de 3 heures de palabre, l'armée israélienne a décidé de nous escorter. Privilège dont on se serait bien passé, à l'intérieur de Gaza, de nuit, hein, donc avec des militaires tout armés, gilets pare-balles, casques, fusils d'assaut, et éclairés par les jeeps derrière et devant, tout en tirant les deux valises à roulettes qu'on était autorisé à faire pénétrer dans Gaza. Il faut savoir qu'on ne peut pas amener de médicaments sans ordonnance personnelle, hein, ce serait sans doute dommage qu'on puisse aider des malades palestiniens et qu'on peut amener seulement 3 kilos de nourriture et pas plus d'un kilo par produit. Donc c'est comme ça que je suis entré de nuit. Et bon, voilà, pour l'anecdote, c'était mon 63e anniversaire, donc c'était quand même un cadeau assez inoubliable.
Alors, ce que vous voyez immédiatement, c'est un spectacle de désolation, de destruction, d'un espace qui vous est familier et que vous reconnaissez malgré tout.
Ah non, je ne le reconnais pas à ce moment-là. Il me faut de nombreuses journées pour commencer à reprendre mes repères dans ce qui est un champ de ruines. Sauf que très vite, il saute aux yeux que ce n'est pas le fruit d'une catastrophe naturelle, ce n'est pas le fruit d'un tremblement de terre, d'un tsunami, parce que la nature a des erreurs, la nature a des approximations. Non, là, c'est l'œuvre de l'homme. C'est méthodique, c'est systématique, et c'est tout simplement vertigineux. Donc je le décris tout particulièrement le jour de Noël, où je retourne à Khan Younes. Khan Younes est le caravansérail, le Khan de Younes, c'était un émir mamelouk du XIVe siècle qui a donné ce nom. C'était donc vraiment un carrefour commercial important, c'était une ville tout à fait vibrante, et là c'est plus rien. C'est plus rien. Et alors, je me console, si j'ose dire, je me raccroche aux quelques filets de vie, aux quelques taches de couleur que je peux encore repérer. Mais cette désolation est épouvantable. Et à ce moment-là, je comprends, je savais, mais là, je comprends pourquoi Israël interdit à la presse internationale l'accès à des scènes aussi bouleversantes. Parce que même pour moi, qui connaît quand même Gaza depuis des décennies, qui documente, archive, enquête, eh bien, je ne savais pas que l'horreur était d'une telle ampleur.
Vous avez souhaité, Jean-Pierre Filu, vous rendre à Gaza. C'était aussi une manière... Alors, le sous-titre de votre livre... Le territoire que j'ai connu et arpenté n'existe plus, ce qu'il en reste défie les mots. Alors, deux questions. Votre intention en vous rendant à Gaza, c'était d'abolir cette distance que nous avons tous avec ce qui s'y passe et d'essayer en même temps de mettre des mots sur l'indicible?
En effet, mais je ne mesurais pas avant d'aller sur place à quel point cette distance était... importante et, si j'ose dire, profonde. Parce que pendant que nous avons continué notre vie, plus ou moins normale, plus ou moins apaisée pendant 21 mois, il s'est passé quelque chose, alors j'ose pas dire d'indicible, vu que j'essaie de le dire, et j'espère que je suis arrivé à trouver les mots. Je l'espère d'abord parce que c'est la moindre des choses pour les lecteurs, mais aussi parce que ça participe d'un hommage que je veux rendre aux femmes, aux hommes et aux enfants de Gaza. Alors, la plupart ne me l'ont pas dit, mais ils me l'ont tous fait sentir qu'ils espéraient que je serais leur témoin, leur relais, leur écho dans ce monde dont ils ont quand même la conviction qu'il les a abandonnés à leur tragédie. Donc, ils ont beaucoup de respect, j'irais presque d'affection pour les humanitaires qui sont là-bas. Et c'est vrai que Médecins Sans Frontières, par exemple, mais ils sont loin d'être les seuls, accomplit un travail extraordinaire. C'est pour ça que j'ai décidé, c'est pas du tout... Il n'y a aucune contrepartie entre MSF et moi. C'est moi qui ai décidé de verser l'intégralité des droits d'auteur. Mais ce sentiment d'abandon, il est exprimé souvent dans des termes très durs, surtout à l'encontre des Arabes. Surtout à l'encontre des Arabes et... évidemment, à l'encontre des Arabes les plus proches, c'est-à-dire l'Égypte et les Égyptiens.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, vous décrivez un spectacle d'apocalypse, on l'a dit, et vous vous arrêtez en particulier sur la question de... Alors, d'abord, vous rappelez, combien les morts... sont des gens qui avaient une grande implication dans la vie intellectuelle, artistique, culturelle, scientifique de Gaza. Et vous vous arrêtez longuement sur la question des hôpitaux. Il y avait 36 hôpitaux à Gaza. Combien en reste-t-il aujourd'hui qui peuvent fonctionner ?
Alors, dès la mi-octobre 2023, avant même la réoccupation, la troisième occupation de Gaza par l'armée israélienne, j'avais mis en garde contre le piège dans lequel Israël allait tomber les yeux grands ouverts, en croyant détruire le Hamas et en détruisant la bande de Gaza. Donc, même si le Hamas a vraiment reçu des coups terribles, il a été beaucoup moins affaibli que la bande de Gaza et la population en tant que telle. Donc il reste relativement plus fort. Ça, c'est un des paradoxes qui est évident quand on est sur place. Mais à l'extérieur, il y a cette assimilation permanente entre Gaza et Hamas qui est terrible, hein, qui est une agression en fait contre les femmes et les hommes de Gaza, comme s'ils n'existaient que par le Hamas et qu'ils ne pouvaient pas exister sans le Hamas, qui évidemment nourrit les discours de guerre et de liquidation les plus abjects.
Mais pardonnez-moi de vous interrompre, Jean-Pierre Filius, c'est aussi le discours des dirigeants israéliens que de dire qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza.
D'accord, enfin, là je ne parle pas des Israéliens, je parle du débat en France où très souvent cette assimilation est faite.
Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être la reprise de ce discours israélien.
Non ? Mais que chacun tire ses sources où il veut. Moi, je dis juste qu'il faut au moins rendre cette dignité élémentaire aux femmes et aux hommes de Gaza, qu'ils ont une vie propre. Après, si vous voulez dire que tout ça, c'est la faute du gouvernement israélien, c'est votre responsabilité.
Moi, j'ai entendu. Non, c'est pas du tout le sens de ma question.
Mais c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Moi, je constate que ce déni de Gaza, il est très largement partagé. L'autorité palestinienne de Ramallah, quand je plaidais pour une levée inconditionnelle du blocus de Gaza, était contre. Parce qu'elle pensait que ce serait une victoire pour le Hamas. Donc elle n'était même pas capable, autorité palestinienne de Ramallah, de faire la différence entre ses compatriotes de Gaza et le Hamas. Hein? Donc, mais si je peux répondre à votre question précédente.
Je vous en prie.
Voilà. Donc c'est pourquoi il y a eu cette destruction de la bande de Gaza et non du Hamas, qui a visé, effectivement, entre autres, tous les lieux de production intellectuelle, culturelle, la société civile. La société de Gaza est aujourd'hui désintégrée, alors qu'elle elle était solide, elle avait ses réseaux traditionnels ou plus politiques, il y avait une vie politique à Gaza, il y avait une vraie contestation contre le Hamas. Si les élections qui étaient programmées en 2021 avaient eu lieu, mais elles ont été repoussées par l'autorité palestinienne avec le soutien de l'Europe et des États-Unis, pour qui ce nouveau déni de démocratie paraissait peu important. Si ces élections avaient eu lieu, le Hamas aurait perdu le pouvoir en 2021 dans les urnes. Hein. Donc, et ça, je ne crois pas que même les gens qui se sentent proches de Gaza mesurent à quel point la population était indépendante, autonome. Donc, on a détruit les 12 universités, on a détruit la scène culturelle, on a détruit la classe moyenne, on a détruit la société civile. Donc, la bande de Gaza est aujourd'hui beaucoup plus vulnérable à la domination du Hamas qu'elle ne l'était 21 mois plus tôt.
Alors, je reviens aussi à la question des hôpitaux pris pour cible, avec souvent comme argument l'idée que des membres du Hamas s'y cachent ou y cachent des armes.
Donc, les hôpitaux de Gaza sont la cible d'agressions permanentes, cycliques, et effectivement sur la base d'accusations extrêmement lourdes qui n'ont jamais pu être étayées par la propagande israélienne. De surcroît, l'historien que je suis lit à chaque fois les communiqués israéliens, les archives, et c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas semblant de personnaliser, de donner des détails, de donner des éléments sur telle ou telle attaque. On répète toujours les mêmes éléments de langage. Voilà, centre de commandement terroriste, complicité. Bon. La réalité, c'est que Gaza détient toute une série de sinistres records. C'est le pays le plus dangereux du monde pour les enfants. C'est le pays le plus dangereux du monde pour les journalistes. C'est le pays le plus dangereux du monde pour les humanitaires. Et c'est le pays le plus dangereux du monde pour les personnels de santé. On en est sans doute aujourd'hui à 1400. Hein. Voilà, que je vous laisse quand même que ce chiffre de 1400 personnels de santé tués. Tués, hein. Je ne parle pas de ceux qui sont morts de leurs blessures, du fait de, du manque d'accès aux soins, de la faim, des privations, des épidémies. Je parle de ceux qui ont été tués. Hein. Donc, et je fais le détail à un instant donné de mon séjour entre le nombre de médecins, le nombre de dentistes, le nombre de pharmaciens, le nombre de kinésithérapeutes. Là aussi, c'est vertigineux. Et donc, je reprends la citation, il se trouve que c'était un médecin, deux médecins sans frontières, qui a été tué peu après et qui avait écrit sur le tableau des opérations « Nous avons fait ce que nous avons pu et ceux qui resteront raconteront notre histoire ». C'est à l'image de ces femmes et de ces hommes de Gaza, c'est d'une immense pudeur, parce qu'il vivait l'enfer et d'ailleurs il va périr peu après dans un tir israélien. Et en même temps, cette idée de la transmission. Hein, ceux qui resteront raconteront notre histoire. Et c'est ça aussi que j'ai voulu faire, raconter cette histoire, alors qu'on est à un niveau de perte qui défie l'entendement et de destruction, et que donc tout ça vise aussi à faire disparaître cette histoire, à faire disparaître l'histoire de Gaza en tant que telle, dans son patrimoine, dans ses lieux de mémoire, dans ses lieux de vie, mais aussi les histoires des femmes et des hommes de Gaza, y compris durant cette guerre atroce.
Et vous redonnez un visage à ces morts, à ces blessés. Alors le médecin qui avait laissé ces mots extraordinaires, c'est Abou Noujaïla que vous citez. Et vous rappelez également dans votre livre, Jean-Pierre Filiu, que le nombre de personnel médical, je pense toutes spécialités confondues, tués dans la bande de Gaza est supérieur à celui de leurs collègues tués au cours de l'ensemble des conflits depuis 2021. C'est bien ça ?
Et ça, c'était en décembre dernier.
Malheureusement,
la liste n'a fait que s'allonger depuis.
Oui. Alors, on rappelle, on a souvent rappelé que Gaza était la zone de la plus forte densité au monde, et vous avez expliqué pourquoi au début de cette émission. Ce qui frappe également dans votre témoignage, c'est combien cette densité s'est muée en enfer de promiscuité. Vous décrivez les tentes tout le long de la bande côtière, l'absence d'intimité, l'absence d'hygiène qui rend la vie des Gazaouis absolument insupportable et pourrait leur confisquer toute dignité et les ramener à cette désignation d'un responsable israélien, des animaux humains, et pourtant la dignité est toujours là.
C'est sans doute au centre de ma démarche d'écriture, de recherche, de témoignage, qui est de restituer cette dignité des femmes et des hommes de Gaza. C'est très frappant. Moi, j'avais la chance de dormir dans une maison en dur. C'est un luxe inouï à Gaza. Ceux que je retrouvais au bureau au matin, eux, pour la plupart, sortaient d'une nuit sous la tente. Et ils arrivaient droits, soignés, souriants. Et même quand je savais qu'il y avait eu des frappes pendant la nuit, donc des bombardements, ou des pluies torrentielles qui avaient transformé les tentes en un cloaque boueux, bien ils me disaient que la nuit avait été difficile, rien de plus. Hein, ils ne se lamentaient pas, parce que c'est une... C'est pour leur survie. Hein. Ils sont obligés d'entretenir une carapace de survie, de ne pas se laisser aller, et chacun, parce que personne n'est seul à Gaza, donc chacun préserve cette carapace de survie face à celui qui dépend de lui. Hein, évidemment, le père de famille, la mère de famille, mais aussi l'enfant. L'enfant ne veut pas ajouter de la douleur ou de la peine à celle de ses parents ou à celle de ses frères et sœurs. Donc on a cette société qui, malgré les coups terribles qui lui ont été portés, essaie encore de faire peuple, de faire dignité. Hein. Et donc il y a l'assaut que l'on voit, physique, contre tout ce qui fait de Gaza un espace de vie, mais il y a aussi un assaut beaucoup plus infâme contre la dignité de ces femmes et de ces hommes. Alors effectivement, la mère de tente, moi je logeais dans ce qu'on appelait improprement la zone humanitaire, donc c'est une soixantaine de kilomètres carrés, sur lequel on a plus d'un million d'habitants, entre 1 million et 1,5 million, je crois que le chiffre exact devait tourner autour de 1,2 million. Donc alors là, on est dans des taux de densité très forte, d'autant qu'il n'y a aucun étage. Tout est à niveau de femmes et d'hommes. Hein, ce sont des tentes. Donc la densité est très forte, la promiscuité est très forte. Hein, il faut savoir que dans les tentes, où est-ce qu'on a les sanitaires, où est-ce qu'on a l'espace où on peut se laver, j'ose même pas dire se doucher, parce qu'on n'a de toute façon pas assez d'eau pour se doucher. La moyenne de l'eau, c'est de 2 litres d'eau potable et 7 litres d'eau consommable par jour. C'est misérable, hein. C'est très en deçà de tous les standards internationaux. Et c'est une moyenne, et il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui n'y ont même pas accès. Et donc il y a cette promiscuité, cette violence, et c'était très frappant. Déjà, il y a 7 ans, un correspondant du Monde avait dit « Gaza est une espèce de laboratoire où on maintient 2 millions de cobayes humains », c'était son expression, il y a déjà 7 ans, « sous une cloche hermétique pour mesurer leur degré de résilience ». Et on a l'impression qu'aujourd'hui, alors là, on arrivait à vraiment des expériences de type Frankenstein, hein, sur... ces femmes, ces hommes qui sont totalement vulnérables et qui, malgré cette vulnérabilité, plutôt que de générer ce qui serait somme toute légitime, hein, de la rancœur, voire plus, hein, contre le monde qui serait responsable, eh bien, ils essaient de maintenir leur humanité. Et c'est aussi pour cela que je voulais écrire ce livre. En fait, ce n'est que depuis que le livre est publié, et depuis que je peux en parler comme à cette antenne, que je suis vraiment rentré de Gaza. Sinon, j'étais toujours là-bas. Je n'arrivais pas à les quitter, ces femmes et ces hommes.
Alors, les femmes en particulier traversent toutes les guerres, et celle-ci particulièrement d'une manière tragique. C'est aussi parce qu'elles sont parfois enceintes, elles doivent allaiter, et le livre rappelle que certaines femmes sont mortes parce qu'elles n'ont pas pu accoucher. Vous parlez aussi d'une scène terrifiante d'une femme qui est tuée par un sniper alors qu'elle arrive pour accoucher dans un hôpital par ailleurs démuni de tout. Comment cette dignité se manifeste particulièrement chez les femmes ?
Chez les femmes, elle se manifeste à des détails. Déjà, vraiment, l'image qu'elle donne au monde est très importante, et la volonté de rester toujours soignée, calme, digne, j'insiste, hein, ça n'est pas du tout une apparence, c'est quelque chose de crucial, hein, dans cette tragédie. Il y a beaucoup de veuves, hein, qui sont... totalement en charge de familles parfois nombreuses et qui doivent faire face à ce défi quotidien de la nourriture et de l'élémentaire. C'est-à-dire chaque matin, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner aux enfants et avec quoi on va pouvoir cuire ce qui... Il y a plus de carburant, hein, ça Israël y a veillé, hein, il y a des quantités minimes pour les services médicaux. Il n'y a plus de panneaux solaires, il faut les réparer. Beaucoup ont été détruits par l'armée israélienne. Il y a un peu de gaz de cuisine. Donc, quand on obtient une petite cartouche de camping-gaz, c'est la fête. Hein, mais c'est jamais qu'un litre ou deux. On les voit sous les tentes, le visage noir de suie, éventent un four creusé dans la terre. Avec quoi ? Avec du bois quand elles ont de la chance, mais généralement des chiffons, du nylon qui a été glané par leurs enfants ou par d'autres dans les décharges à ciel ouvert, parce qu'on n'a plus que ça comme combustible. Évidemment, c'est très toxique. Et en plus de cela, on a beaucoup d'accidents sous les tentes par des incendies domestiques, donc des brûlures souvent terribles, qui sont aggravées, parce que comme il n'y a pas de produits d'hygiène, on a recours à la soude, et ça peut évidemment causer des blessures terribles. Donc il faut savoir que toutes ces victimes-là ne sont pas comptabilisées dans le bilan de la guerre. Et c'est pourquoi les bébés morts de froid, les nourrissons morts de froid, quand je me trouve à Gaza, ne sont pas comptabilisés dans le bilan de la guerre.
Oui, vous racontez d'ailleurs la mort d'un nourrisson pendant la nuit.
Il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Mmh. Donc il faut savoir que, quels que soient les chiffres qui sont déjà terribles, hein, on parle de plus de 56 000 morts, dont 17 000 enfants. Ça veut dire, à l'échelle de la France, 1 700 000 morts, dont un demi-million d'enfants. Voilà, là aussi, il faut quand même que ces chiffres nous pénètrent. Mais on peut sans doute doubler du fait des morts de maladies, d'épidémies, du manque d'accès aux soins, de tous ces accidents domestiques qui ne se seraient pas produits si les personnes n'étaient pas acculées sous les tentes. Évidemment, les malades chroniques, hein, les cancéreux, les malades en nécessité de dialyse, atteints de péritonite. Voilà. Donc on est à 2,5% de morts directes et sans doute autant de morts indirectes, donc à 5% de la population. Donc ça, c'est sans parler des blessés, des mutilés, évidemment des traumatisés à vie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et hier, Rami Abou-Jamous, qui est un peu le relais des journalistes interdits d'entrer à Gaza, Rami Abou-Jamous, journaliste palestinien, a attiré notre attention sur l'absence cruelle de boîtes de lait et sur l'appel lancé par l'hôpital Nasser. De nombreux nourrissons risquent de mourir de faim dans les jours qui viennent. Alors, Jean-Pierre Filu, dans ce livre que vous publiez aux éditions Les Arènes, après avoir séjourné un mois à Gaza, vous insistez aussi beaucoup, on l'a entendu aussi à ce micro, sur le dévoiement des mots, et notamment sur le mot « humanitaire », « zone humanitaire ». Il y a ces derniers temps, autour de l'aide américano-israélienne, des centres d'aide américano-israélienne, le sentiment chez les Palestiniens qu'il s'agit là de pièges mortels. Il y a régulièrement des morts, des gens tués alors qu'ils essaient de se ravitailler. Quel regard portez-vous sur cet aspect de la situation à Gaza ?
Ben, je crois que George Orwell aurait été tristement fasciné par l'utilisation des mots et leur dévoiement à Gaza. On est complètement dans 1984, hein, donc la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage. Et là on a des traitements inhumains qui sont banalisés par une puissance occupante et son allié inconditionnel qui prétendent faire de l'humanitaire. Donc moi j'ai choisi de désigner, donc voilà, en sciences sociales, il faut qualifier les événements, et là, j'ai pris un néologisme, parce que je n'avais jamais vu un phénomène de ce type, une telle instrumentalisation, militarisation d'une aide qui était une obligation, hein, pour la puissance occupante, c'est pas du tout un cadeau qu'elle fait aux populations, et aussi de cette campagne contre les organisations humanitaires, les vraies, contre les Nations Unies, contre le Comité international de la Croix-Rouge, donc pour les évincer les décrédibiliser, voire les frapper, les tuer. Hein. Médecins sans frontières a déjà 11 agents qui ont été tués, et c'est le cas de pratiquement toutes ces organisations. Donc j'ai choisi le terme de guerre inhumanitaire, à la fois pour cette banalisation et pour cette militarisation, cette intégration de l'aide aux opérations militaires les plus violentes. Et ça va très au-delà de Gaza, et ça devrait vraiment, au-delà de l'indignation face à la catastrophe humanitaire à Gaza, l'idée que c'est peut-être un laboratoire de ce que serait un monde sans les Nations Unies, sans le droit humanitaire, sans les conventions de Genève. Hein, donc je rappelle que depuis 1949, ce sont elles qui, sous l'autorité du Comité international de la Croix-Rouge, régissent les obligations des belligérants, et entre autres de la puissance occupante face à la population civile. Un monde comme ça, c'est déjà une horreur à Gaza, ça n'est plus une dystopie. Les Palestiniens, dans leur vraiment tragédie, toujours beaucoup d'humour, c'est aussi une des façons pour eux de conserver leur dignité et de rester debout, ils disent on est en train de nous rejouer Hunger Games. Hein, donc sauf que c'est pas une dystopie. C'est pas une dystopie. On est vraiment en train de les tuer au moment où ils devraient être assistés. Hein, et au cœur de l'action humanitaire, il n'y a pas juste le bien qu'on donne ou le service qu'on rend, il y a le respect de la personne. Et ça, c'est complètement balayé par les décideurs israélo-américains. Il faut voir que concrètement, ces centres d'aide sont devenus des charniers. Hein. Là, on est quand même maintenant à des centaines de morts. On aurait dépassé les 500 morts juste dans les distributions d'aide en un mois. 500 morts dans les distributions d'aide en un mois. Et donc c'est l'armée israélienne, mais c'est aussi les mercenaires. Les mercenaires, il faut appeler les choses par leur nom. Société de sécurité privée, c'est bien joli. Ce sont des mercenaires américains qui sont grassement payés, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans cette guerre, peut-être encore plus que dans d'autres, la mort est un excellent investissement pour un certain nombre de prédateurs, de charognards, que je décris dans le livre, je décris comment ils fonctionnent, qui se font beaucoup d'argent avec la mort des femmes et des hommes et des enfants de Gaza.
Et avec aussi le marché qu'on pourrait appeler un marché noir, enfin en tout cas la possibilité de revendre à prix fort dans un contexte cruel de manque.
Voilà, mais ça aussi c'est la mort, parce que ça veut dire que des biens qui auraient dû être livrés gratuitement aux plus faibles, eh bien ces pillards les ont détournés, et en les vendant à des prix exorbitants, interdisent sans doute à ceux qui en ont le plus besoin d'y accéder, ce qui est aussi une question de vie ou de mort.
Vous montrez aussi, Jean-Pierre Filu, dans votre livre, comment les pillages sont instrumentalisés par Israël. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point ?
Oui, alors j'ai documenté l'action d'un gang de pillards. Leur chef s'appelle Yasser Abu Shabab, et c'est étonnant parce que ce gang est non seulement financé, armé, mais il est soutenu par les drones israéliens qui interviennent pour l'appuyer quand il n'arrive pas à piller assez vite. Donc du point de vue israélien, pourquoi aider ce gang? Ça leur permet de reprendre d'une main ce qu'ils ont fait semblant de donner de l'autre. Hein. Je rappelle, hein, l'aide humanitaire est une obligation, ça ne devrait pas être négociable, mais Israël ne cesse de le négocier, et à la fin, on a fini par oublier que c'était une obligation. Et Israël a été incapable de se constituer des relais dans la population de Gaza. Donc, ils se sont rabattus sur le crime organisé, sur quelques centaines de personnes qui sont en plus complètement désavoués, reniés par leur famille. Donc ça n'ira pas loin, sauf que ça fait énormément de dégâts à Gaza. Donc quand je racontais ça, on regardait de manière un peu surprise. Mais pourquoi? Comment? Parce que tout ça paraissait un peu complexe, un peu contourné. Et puis Netanyahou vient de le reconnaître en disant bien sûr, voilà, nous on arme tous ceux qui sont opposés au Hamas, on les arme. En fait, c'est pas vrai. On arme que les gens qui sont opposés au Hamas et à la botte des Israéliens. Légère nuance. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une opposition au Hamas qui serait légitime, qui serait nationale, qui serait patriote, et qui pourrait, alors là pour le coup, évincer le Hamas de la direction de Gaza, eh ben on arme des soudards, des violeurs, des trafiquants. Et évidemment, ça fait le jeu du Hamas, mais qui peut en retour se poser en protecteur d'une population qui, effectivement, entre les pillards et les islamistes, elle choisit assez vite ses préférences.
Et c'est ce qui s'est passé hier ou ce matin, puisque 60 camions ont pu entrer, 60 camions d'aide humanitaire ont pu entrer... protégés par le Hamas, avec un espoir transmis par toujours Rami Abou Jamous, notre contact à Gaza, de voir enfin la population pouvoir en partie être ravitaillée. Et en partie, bien sûr, il faut rester prudent. Il est 9h55 sur Aligre FM 93.1. Jean-Pierre Filu, il nous reste donc peu de temps. Une dernière question peut-être, face à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, cette faillite du droit international, des conventions de Genève, que reste-t-il comme espoir ?
L'espoir, d'abord, il réside dans ces femmes et ces hommes qui ne sont pas effondrés, qui continuent de rester debout, de garder leur dignité d'être humain et qui nous donnent, il faut vraiment comprendre qu'ils nous donnent une leçon d'humanité. Ils ne sont pas en train de mendier. Ils ne veulent pas être contraints de recourir à cette bassesse. Ils demandent juste leur droit élémentaire à vivre comme tous les êtres humains de la planète. L'espoir, il réside dans le fait qu'il suffirait d'au fond peu de choses pour mettre un terme à cette horreur. L'aide humanitaire est empilée aux portes de Gaza. Il suffirait de la laisser entrer massivement. Mais l'espoir réside surtout dans la réouverture de l'horizon politique de la solution à deux États. Et là, je me permets de revenir en conclusion à ce que j'avais dit en introduction, qui est que Gaza est la clé. Gaza est la clé de la guerre et de la paix. Et si on veut la guerre à Gaza, cette guerre surpassera en horreur toutes les guerres précédentes, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses encore pires à Gaza. J'en suis malheureusement convaincu. Mais en même temps, si on a décidé de faire la paix, alors Gaza présente toutes les ressources, et avant tout les ressources humaines. C'est une population patriote, dévouée, qui veut faire prospérer cette enclave abandonnée du monde, qui n'a pas fui et qui s'investira pour non seulement reconstruire, mais s'ouvrir au monde. Donc l'espoir, il est simple. Il faut que le monde revienne à Gaza et que Gaza revienne au monde. À partir de ce moment-là, tout est possible. Si on refuse cette évidence, soit par manque de volonté, soit parce qu'on veut poursuivre ces guerres sans fin, alors là, bien le pire me paraîtrait inévitable.
Merci Jean-Pierre Filu d'être venu ce matin au micro d'Aligre FM pour témoigner de ce qui se passe à Gaza. Un livre, un historien à Gaza, c'est publié aux éditions Les Arènes, et nous rappelons que l'intégralité des droits sera versée à Médecins Sans Frontières, un livre effroyable, mais qu'il faut absolument lire pour prendre la mesure de ce qui se joue dans cette partie du monde.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.